Bonjour, je me présente, M. Zandronis Jean-Marie. J'étais très content parce que c'est mon frère de là-bas qui m'a bipé pour écouter votre émission, qui m'a plu beaucoup, m'a plu vraiment, vraiment. J'en ai fait part aux gens, n'ayant pas pu avoir le tout. J'aurais aimé savoir si vous avez d'autres cassettes de ce genre, si je peux les avoir ou comment faire déjà pour avoir celui-ci. En ce qui concerne la régularisation des choses, sachez que je paie mes titres de droit de télévision avec mes impôts. Pour vous rassurer déjà, quand j'achèterai, ce serai en règle. Alors j'attends une réponse de votre part et je vous dis merci, au revoir. Et comme on dit, chez nous, quien bire des pas molli, c'est molli la rirede. Allez, bye bye et bon courage à toute l'équipe.
Bonjour, ici c'est Roland de Laval. Voilà, je voulais intervenir par rapport à la situation en Guadeloupe, par rapport au pouvoir d'achat et donc les négociations qui piétinent par rapport à la relation salarié-employeur, MEDEF, c'est-à-dire MEDEF qui recouvre l'État, à mon sens. Personne, aussi bien des deux côtés, ne parle de la réduction de l'échelle des salaires. Voilà. L'échelle des salaires en France, qui est énorme, pratiquement de 1 à 300, et parfois plus. Ben, si on la réduisait de 1 à 6, et que la différence, on la mettait sur les bas salaires et les minima sociaux, ben, c'est pas 200 euros qu'on donnerait aux bas salaires, c'est bien plus. Mais personne n'en parle, ni les syndicats, ni le patronat, ni le LKP, personne, quoi. Alors, ben voilà, la solution est peut-être là. Réduction de l'échelle des salaires. On baisse d'autant les hauts salaires, et avec la différence, on augmente les bas salaires. C'est simple, hein, il suffit de partager la masse salariale entre tous les Français. Et ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Oui, bonjour Daniel, c'est Céline de Nantes, une fidèle auditrice. J'appelle parce que je viens d'entendre la deuxième émission qui concerne la Guadeloupe. Je suis sur l'autoroute aujourd'hui, mais j'étais il y a une semaine en Martinique, en vacances. Et je soutiens, mais de tout cœur, ce mouvement, parce que franchement, en étant sur place, on se rend vraiment compte de la merde dans laquelle ils sont et de la dépendance économique et sociale aussi, des béquets qui ont le monopole à 80% des richesses de l'île. C'est eux qui ont tout. Il y a 8 familles béquets en Martinique qui se partagent plus de la moitié des richesses de l'île, entre les grandes surfaces, les concessions automobiles, les pompes à essence, etc. C'est lamentable, c'est lamentable.
Oui, bonjour Daniel, je viens de t'entendre dire que tu t'es donné que les enfants de Guadeloupe ne mangeaient que des pommes et des poires venues de l'extérieur et pas de fruits originaires de la Guadeloupe et de la Martinique. Cependant, pour la blague, il aurait même mieux valu qu'ils n'en mangent pas et j'espère qu'ils n'en mangeront pas parce que j'invite à lire un livre qui s'appelle « Pesticides, chronique d'un scandale français » qui parle très très bien des problématiques de contamination grave au chlordécone, des molécules qui ne sont plus utilisées depuis 30 ans en France et qui ont contaminé eau et bien sûr culture de ces Antilles. Voilà, donc peut-être que dans leur malheur, finalement, au moins pour les enfants, il aura mieux valu de ne pas manger des fruits, même pas même des légumes venant de là-bas. Voilà, sinon, ben, bon courage à la Guadeloupe et bonne continuation.
Bonjour Agnès, bonjour Daniel, c'est Saïd de Paris. Je voulais poser une question à propos de la profitation, parce que je ne saisis pas exactement le sens de ce mot. Finalement, on en a parlé hier, donc c'est bon. Mais par contre, j'ai entendu sur France Info, le valeureux reporter de cette station, dire qu'il y aurait une majorité silencieuse qui ne dit pas mot pour le moment, qui ne manifeste pas, qui ne bat pas le pavé, comme il dit, mais qui n'en pense pas moins. Et d'après lui, il paraît qu'il commencerait à manifester une sorte d'agacement vis-à-vis de ce qu'il appelle une minorité agissante, bien sûr violente, etc., etc. Alors toi qui es là-bas, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est de l'info, de l'intox, et est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à France Info sur ce coup-là, ou si on doit faire comme d'habitude, quoi. Voilà, je te remercie. Au revoir.
Oui, salut Daniel Mermet. En fait, je pense que tu en fais un peu trop. La profitation n'est pas une contraction volontaire, mais une simple faute d'orthographe. La contestation qui te semble toucher à des problèmes universels est en fait une simple demande de fric. Les Guadeloupéens veulent 200 euros, point final. Quant à la mort politique, entre guillemets, du syndicaliste, en fait, il a été tué par des Guadeloupéens manifestants. Ceux qui en veulent faire un martyr comme toi, mente. Quant à la disparition du capitalisme, vaste farce, les sociétés sont inégalitaires, certes, mais sans les béquets, l'île serait comme Madagascar, misérable. Les Guadeloupéens vivent sur des subventions dégagées grâce au capitalisme, l'immobilier de luxe, la défiscalisation. Et si le capitalisme n'existait pas, la société serait certes égalitaire, puisque tous seraient très pauvres. D'ailleurs, le meilleur service à rendre aux contribuables français serait de rendre leur indépendance aux Guadeloupéens. Mais ça ne serait pas un grand service à leur rendre à eux-mêmes. À bientôt.
Anonyme. Ah, comme c'est dommage. Notre auditeur a oublié de laisser son nom et des coordonnées pour que nous puissions le rappeler. Ah, comme c'est dommage. Il faut dire qu'il y en a quelques-uns comme ça. Pas beaucoup dans le répondeur de la base où j'y suis. Il y a aussi, vous avez entendu, des messages qui soutiennent ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, qui soutiennent quoi? Parce que en ce moment, bah, les négociations, vous êtes au courant, continuent. Le pays tout entier suit ça heure par heure. Tantôt le sourire éclaire les visages, tantôt ça se renfrogne. Et là, c'est en train de se renfrogner depuis hier soir, ce matin. C'est le retour au durcissement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le MEDEF local refuse les propositions et c'est le bras de fer. Alors que la plupart 6 des organisations patronales, des petits patrons, iraient volontiers vers un accord, c'est le MEDEF local qui braque et qui bloque avec les chantages habituels bien connus de la part de ce MEDEF. Alors bien sûr, le gouvernement, les pouvoirs publics regardent ailleurs, mais quand on connaît la proximité du gouvernement et du MEDEF, effectivement, on se dit que le mouvement, que le collectif a du souci à se faire. Du souci à se faire, en tous les cas, pas en ce qui concerne le soutien populaire reste entier, mais aujourd'hui, ça durcit à nouveau, ça mobilise à nouveau, la grève générale continue, elle n'avait pas cessé d'ailleurs, mais les magasins à nouveau ferment et on rétablit les barrages à travers la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on va rencontrer ce qu'on appelle les métros, on peut aussi les appeler les hexagonaux, qui éprouvent, il faut bien le dire, un certain malaise. On va rencontrer notamment les AMG, car il existe un repère très important et très vivant à Pointe-à-Pitre. Et puis, il faut absolument replacer toute cette histoire dans l'histoire. Alors, on va rencontrer un historien fameux ici, Jean-Pierre Saint-Pon, qui est très impliqué dans cette lutte et qui va replacer, comme on l'avait fait hier avec un autre historien, cette histoire dans l'histoire non seulement de la Guadeloupe, mais des Antilles et puis notre histoire à tous. C'est la base, si j'y suis. Le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. En route pour Pointe-à-Pitre. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis.
Madame Lagarde, que comptez-vous faire pour les personnes qui, soi-disant, qu'ils allaient travailler en Angleterre, c'était merveilleux, et que maintenant, on revient en France et qui touchent 6 000 euros aux ACEDIC? Alors, les réformes que vous voulez faire, mais il faut savoir lesquelles réformes faut faire. Hein, si c'est des réformes sur le dos des ouvriers, on est contre ces réformes-là. Parce qu'ils commencent à en avoir marre de... Ça soit toujours les mêmes qui trinquent. Salut!
Bonjour Daniel et salut à tous les amis de là-bas si j'y suis. Jeudi, nous aurons le plaisir de fêter notre deuxième repère au canon à pâtes de Rosé au sud de Nantes à partir de 19h30. Le canon à pâtes, bah, c'est le bistrot de Patrick situé au 51 rue Alsace-Lorraine à Rosé. Et donc en tant qu'initiateur du projet, il sera ravi de tous nous accueillir. Cette semaine, le thème de notre soirée sera l'utilisation de nos peurs par la société. Le sujet étant vaste, nous essaierons en particulier de déceler par quels moyens on essaye de nous faire croire que l'autre, l'étranger, est un ennemi. Autre sujet, le travail, qui lui est devenu une denrée rare, mais la peur de le perdre est aussi devenu un moyen de pression, utilisé de manière indécente par le patronat. Et pour finir, nous essaierons aussi d'aborder un sujet qui est plus difficile, c'est la peur au sein même du couple. À bientôt, merci.
Bonjour Daniel, et bonjour à toute l'équipe, et bonjour à tous les AMG. Toujours modeste, mais toujours géniaux. Donc voilà, je voulais vous dire aussi à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, enfin, vous êtes un peu ma brise de mer, quoi, qui vient nettoyer un peu toute cette puanteur qui revient d'en haut. Donc je venais vous annoncer aussi, pour Cahors, le troisième rendez-vous du repère au Mont-Saint-Cyr, qui se tiendra le jeudi 26 février à 20h30. Donc je voudrais juste rappeler un petit peu que le premier repère, nous étions à peine une vingtaine, que le deuxième, nous étions une bonne cinquantaine, et donc tous les espaces sont permis pour le troisième repère, et peut-être qu'il faudra créer deux repères, un repère supplémentaire sur le département du Lot. Voilà, bonne journée à tous, et puis continuez, on a besoin de vous. Merci, c'était Loulou de Cahors.
Je trouve ça absurde, quand tu m'as demandé du travail, il a tous ses diplômes, on le juge pas non pour ses compétences, mais pour sa personnalité. Faut arrêter ça, messieurs, faut qu'on arrête ça, faut que cela cesse. Quand un jeune demande du travail, il a tous ses diplômes, donnez-lui du travail. Ne le qualifiez pas non pas sous sa personnalité. Il faut qu'on arrête ça. L'esclavage est fini.
Quel que soit ce qui se passera, on ne pourra pas faire que ce peuple se transforme en une rangée d'appareils digestifs. On a voulu nous transformer en appareil digestif, consommer ce qui vient directement de France et ensuite passer à la déjection.
T'arrivé camarade, Mila, Mila,
alors le non manifeste aujourd'hui notre liberté. Nous disons non à ce que fait l'État colonial français en Guadeloupe.
Et nous disons à l'opinion française internationale que malgré les Mamblots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Chapineau, rien ne nous fera reculer et nous ferons tout en œuvre pour que le MEDEF vienne également s'asseoir à la table de négociation. Et négocie. Et nous disons que le temps des tergiversations est fini. C'est le haut partenaire des Béké qui refuse de partager.
L'eau à place.
Général.
L'eau à place.
Général.
L'eau à place.
Général.
L'eau à place.
Général.
Respecte.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Charot depuis Pointe-à-Pitre. La Guadeloupe contre la profitation.
Yo.
Flight number 2. Arriving from.
Là-bas, si je suis avec Continent, c'est bien vous?
Ouais.
D'accord. Aux environs du 10, j'ai eu l'occasion de vous laisser un message sur le répondeur pour faire le récapitulatif de ce qui s'était passé quand le préfet est parti.
Ouais, on l'a diffusé.
Voilà, tout à fait.
Mais c'était vous, je reconnais votre voix. L'émission avec la trottinette. Qu'est-ce qu'il a raconté, là? J'ai pas compris.
Le préfet est parti.
Ouais, j'ai vu.
L'URL est parti. Enfin, l'URL... Conseil général, conseil régional, ils sont partis. En fait, leur souci, c'est que les petits entrepreneurs, les 5 plus petits collectifs d'entrepreneurs, ont accepté de faire un montage jusqu'à 200 euros. 50 euros de leur poche sur trésorerie, 50 euros via les collectivités et 100 euros sur CSG, RDS, qui sont censés déjà sauter depuis un moment. Les petits entrepreneurs ont accepté, mais les gros, ils proposent 50 euros, 70 ou 80. Donc, on est loin du compte.
Oui.
Donc là, on va encore attendre. On ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Donc en attendant, on campe.
Mais...
Parce que il y en a trois, les trois principaux se sont absentés. Mais absentés, ça peut être ce soir, ça peut être jusqu'à demain, je ne sais pas.
Vous arrivez, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie?
Je travaille dans un centre de recherche. C'est vrai que je suis fonctionnaire. Je ne suis pas sûre de pouvoir bénéficier de ces 200 euros, mais pour moi, ce n'est pas ça l'important. Derrière, il y a trop d'autres choses, trop d'autres dossiers. Le prix du carburant, j'ai des enfants, ils auront besoin de travailler. Dans quelques années, quand ils vont passer leur baccalauréat, à 80% des chances, il va falloir qu'ils partent à Toulouse, à à Nantes ou à Maison Alfort, faire école veto. Il va falloir payer. Si je n'ai pas les moyens de payer, mes enfants ne feront pas d'études. Et même quand ils auront fait les études, s'ils n'ont pas un boulot ici, je les aurais fait inutilement. En fait, moi, ce ne sont pas les 200 euros en tant que tel qui m'intéressent, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse.
Et voilà, c'est comme ça toute la journée, jusqu'à la nuit tombée sur la petite place devant la capitainerie du port de Pointe-à-Pitre, où se déroulent les négociations entre le collectif, le patronat et les pouvoirs publics. Grosse ambiance, gros tambour, petits marchands, avec au milieu une camionnette avec une méchante sono où régulièrement les représentants du LKP viennent informer le peuple dès qu'il y a des avancées ou des reculs sous les sifflets, les hurrahs et les applaudissements. Le nouveau, c'est que ça coince après 3 jours de détente et 2 jours de négociations. Le LKP appelle au durcissement, reprise des barrages, poursuite de la grève générale et la mobilisation, on le voit, on le sent, ne faiblit pas qu'un béret contre la profitation. Un accord est tout à fait possible avec l'Union des petits patrons, l'UCEG. 6 associations patronales de petits patrons approuvent les propositions, mais c'est avec les gros, avec le MEDEF, que ça coince sérieusement. Alors le gouvernement fait mine de regarder ailleurs, mais quand on sait la proximité entre MEDEF et gouvernement, on se dit que le LKP, le collectif, doit se battre fermement pour obtenir quelques queues de cerises. Et puis il y a aussi le Parti Socialiste qui se verrait bien tirer les marrons du feu. J'ai pas dit les nègres marrons, j'ai dit les marrons du feu. Bref, voilà pour l'état du bras de fer. Mais nous aujourd'hui on va essayer d'aller un peu plus loin, ou disons un peu à côté, en allant voir les hexagonaux, les métros. Faut pas dire les métros, alors on va les appeler les hexagonaux, qui traîne un certain malaise dans cette affaire. Et puis, on essaiera de prendre du recul. Hier, on a discuté longuement avec un historien. Là, on va rencontrer un autre qui va retracer l'histoire des Antilles, et plus spécialement, évidemment, de la Guadeloupe. Une histoire, il faut bien l'avouer, amis métro ou hexagonaux, que nous ignorons quand même en grande partie. Voilà, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, qu'un bérouette.
New style, new tune, new breath, rap unite, Santa, done! On tapete, bete, ba, bete, tapete, bete, ba, avanti, yo, men, bito, pa, kejo, kaji, bita, bete, si, biti, ya, biti, men, se, ta, yo, kane, bete, ya, bojo, pa, bojo, pa, ket, patati, ye, batata, Bete bete bop, bita bete bete bop. Avanti yo men bito paske yo. Every bit a bete si biti ya biti men yo 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 gane be. Avas bata 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 bata. No 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 yo patati, no no yo batoto. Me paniko bin kai pliche yo kon patatata. No no yo patati, no yo men batoto. Popa yo vini rakote me kon patatata. No no yo patati, no no yo batoto. Kaba yo lyrics kapeta ye kon karatata. No no yo patati, no no yo batoto.
Premier problème qui a posé à présent, là nous reprenons la discussion là. Compte tenu que les collectivités des IOK engagés, nous demandons à vivre sur place. Donc, il y a tous les dérivés là. Lirel là, Gilo là, et ils ont fermé à dans le bureau, et ils ne veulent pas venir devant nous pour discuter et pour engager eux, et ils veulent que les gens viennent voir eux, yon par yon, comme si c'est des médecins qui ne consultent pas dans le cabinet.
En fait, Gilo, il y a les deux représentants des collectivités qui sont venus parce que sous notre demande, mais qui sont enfermés et qui ne voulaient pas venir rencontrer le collectif, qui préfèrent rencontrer les gens individuellement. Donc on leur a dit qu'ils sont venus, ils ont déjà suffisamment fait des déclarations à la radio, à la télé. Donc maintenant on leur demande de venir sur la table des négociations pour dégager, pour discuter. Lui Angèle et le MEDEF, ils veulent jouer au saut de côte, au saut de mouton, voilà. Et on leur dit qu'il faut qu'ils se mettent d'accord sur cette question. Pourquoi? Parce que c'est important que les collectivités s'engagent.
Parce que
pour faire pression sur l'État, pour accorder les exonérations de la CSG, il faut que les collectivités disent au ce soir qu'ils sont d'accord de telle façon qu'on puisse faire pression sur le gouvernement.
Or,
nous disons, il y a trop longtemps que ce combat a commencé. Il y a trop longtemps que nous sommes en mouvement pour qu'on puisse faire de la démagogie aujourd'hui et ne pas prendre les dispositions nécessaires pour avancer. Parce qu'il nous faudra prendre des dispositions à partir de ce soir et à partir de demain matin aussi si nous n'avons pas satisfaction que nous les fassions nous entendre. Et donc l'applaudissement. Donc maintenant, le ballon ne peut pas rester tout le jour au mi-temps. Il faut qu'il passe d'un côté ou d'un autre. Donc maintenant, Patrice va traduire en français ce que nous venons de dire. Rosan m'a pris en piège parce que maintenant il faut parler le langage de Molière. Mais figurez-vous que c'est très difficile. Mais je dirais quand même deux mots de notre langue. Chers amis, il y a quelque chose qui est fondamental. Vous avez vu aujourd'hui, on leur a donné une faveur pour circuler. Et par rapport à ça, les gens ont recommencé à se regonfler les poitrines. Ils veulent faire le gros dos. Et pour le préfet dit que rien ne se réglera. Donc demain, on va rebander ça, on va remettre des serrages. Parce que c'est la pression populaire qui les contraindrait à nous redonner toutes les sous qu'ils nous volent.
Aujourd'hui, à force de négociations et de détermination, avec l'exemple magnifique de notre camarade Jacques Pinault qui est tombé au champ d'honneur, nous avons décidé de mettre la pression par la négociation. Et le SEG, l'UMPEG, l'UPA et le collectif entrepreneur Guadeloupe ont décidé effectivement de signer une proposition. Écrite, quelle est cette proposition? Elle consiste à faire en sorte de payer 200 euros étalés de la façon suivante. 100 euros divisé en 50 euros qui sont extraits de la trésorerie d'entreprise. Les autres 50 euros de ces 100 euros sont extraits d'engagements faits par les collectivités locales qui sont là, mais qui jouent, comme on dit chez nous, au capon, qui jouent les lâches, qui ne viennent pas s'asseoir aux tables de négociation. Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est de faire en sorte que ce mouvement amorcé par les moyennes et petites entreprises au sein de l'USEC soit suivi des grosses entreprises. Ces grosses entreprises qui sont organisées au sein du MEDEF, ce sont elles qui refusent de négocier, ce sont elles qui font des négociations au rabais. Et nous disons à l'opinion française internationale que malgré les mamblots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Jacques Pinault, rien ne nous fera reculer et nous ferons tout en œuvre pour que le MEDEF également s'assoie à la table de négociation et négocie. Et nous disons que le temps des tergiversations est fini. C'est le haut partenaire des Béquets qui refuse de partager. Parce que ce sont des gens qui sont restés avant 1848. Ils sont restés avant l'abolition de l'esclavage. Ils ont prospéré par une politique raciale et de caste. Et aujourd'hui, ils refusent de partager le gâteau. Il faut partager le soleil, oui, la mer, oui, tout. Mais il faut aussi partager l'argent et le patrimoine. Et on compte sur la pression populaire, sur le soutien du peuple de la Guadeloupe LKP pour arriver à la négociation. Je vous mets à genoux, camarades. Merci.
Alors voilà un point de négociation, toujours sur la petite place devant la capitainerie, avec cette sono qui diffuse heure par heure les nouvelles. C'est un exemple formidable de démocratie continue, peut-être pas de démocratie participative, mais en tous les cas de démocratie continue et d'information directe. Ce qui est évident autour de nous, il suffit de regarder autour de nous. Là, la détermination est grande, on attend. Alors tantôt on siffle, tantôt on applaudit, tantôt on chante. Et là, je rencontre un gars qui me dit, moi avec mon patron, il n'y a pas de problème. Je suis ouvrier carreleur et lui, il est d'accord pour les 200 euros. Alors, c'est pas tout à fait le patron qui va sortir les 200 euros de sa poche de patron. On sait que les patrons ont des oursins dans les poches, c'est connu. Mais il y a un petit effort des patrons, un petit effort de ci, de là. C'est assez compliqué d'ailleurs le système et ça n'est pas exempt de critiques. Mais en tous les cas, c'est possible au niveau des petits patrons qui sont les plus nombreux sur cette île de Guadeloupe. C'est avec les gros que ça coince et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça durcit et on va voir comment ça évolue dans les heures qui viennent. Tout le pays est suspendu à ces négociations. Mais bien sûr, on l'a compris, beaucoup d'autres choses ont été mises en jeu dans cette lutte qui dure depuis le 20 janvier. L'identité, la mémoire, toute l'histoire de ce pays, on remonte à l'esclavage, on remonte à 1802, on remonte à 1905, toutes les dates sont évoquées. Voilà pourquoi on va continuer avec un historien dans un instant, mais auparavant on va aller voir les blancs, on va aller voir les blancs, parce qu'évidemment il y a amalgame entre blancs et riches. Il y a amalgame entre nègres et pauvres. C'est tout à fait classique, c'est inévitable. Il y a cette confusion et elle n'est pas si facile que ça à lever.
Oui, bonjour, ici le repère des amis de la base, si j'y suis en Guadeloupe. Pour vous signaler, lundi, une tenue du repère exceptionnelle en présence de Daniel Mermet à 11h à la Casa, donc à la Jaille sur Bemao. En Guadeloupe, on vous attend le plus nombreux possible. Bonne journée.
J'ai toujours dit, depuis que j'ai créé ce repère en Guadeloupe, qu'aux AMG, il n'y avait pas de chef. Il n'y a pas de patron, il n'y a rien. Chacun prend la parole, chacun est libre. J'ai cependant, aujourd'hui, je me fais prendre à mon propre pied. J'ai un peu l'impression que le patron est là. Daniel Mermet.
Voilà, c'était Fred du repère de là-bas si j'y suis de Pointe-à-Pitre, qui nous avait envoyé un mail en disant non à l'amalgame. Depuis le début du conflit social, nous, métropolitains vivant en Guadeloupe, sommes trop peu nombreux à nous impliquer sur le terrain avec le collectif LKP. Ce silence risque d'être interprété comme un soutien aux profiteurs et affairistes qui écument la Guadeloupe depuis des siècles. Or, travaillant et consommant en Guadeloupe, nous subissons nous aussi la vie chère et à l'instar des plus de 2 millions de travailleurs qui ont manifesté en métropole le 29 janvier, beaucoup d'entre nous rejettent la politique sarkozyste au service des grands patrons. Ne nous contentons plus d'être des observateurs, agissons, retrouvons-nous, métropolitains et tous ceux qui soutiennent cette initiative, à la Casa, sur le Jaï, Bemao, samedi, etc., etc., nous comptons sur vous. C'était pas mal, quand même. C'était l'intention. Eh bien, nous voilà avec ces AMG très nombreux autour de nous, à commencer par Frédéric.
Frédéric Gircourt, bientôt intronisé, nouveau responsable des AMG dans quelques minutes. Donc, je suis arrivé il y a 4 ans en Guadeloupe. Je suis professeur d'espagnol, gréviste actuellement, et engagé aux côtés du LKP depuis le début. Et je tiens aussi un site qui s'appelle Chien Créole, un site d'information en fait, où j'essaie de donner de l'intérieur le maximum d'informations, parce qu'on a un problème de censure, au niveau de la presse locale, c'est très 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 muselé. Donc on se bat pour qu'il y ait quand même de l'information un petit peu honnête qui circule.
Et là, on est un peu surpris là. Ce matin, on s'attendait à retrouver quelques AMG autour d'un verre, et on se retrouve dans un vrai traquenard, vous nous avez tendu un vrai traquenard, parce que c'est une salle de conférence là, c'est une réunion. Dis-nous un petit peu les gens qui sont là.
C'est essentiellement des auditeurs, hein. c'est pas les gens. Il y a les gens qui viennent d'habitude aux réunions des AMG, mais là on est du coup très minoritaire. Et puis il y a tous les gens qui ont entendu l'appel à la radio, on a fait circuler des mails, etc. Donc c'est des gens qui en général ont, je pense, plutôt une sensibilité de gauche. Là, je connais des ouvriers, des chômeurs, des cadres, des profs, parmi les gens
enfin, c'est généralement
que je connais
des hexagonaux, quoi.
Il y a une majorité, mais pas seulement. Tu vois qu'il y a pas mal d'Antillais, il y a une Vénézuélienne, il y a un peu de tout, quoi. C'est vrai, essentiellement des hexagonaux, parce que, effectivement, c'est un public qui te suit depuis, en arrivant ici, on reste fidèle, hein, bien sûr. Et ici, bon, il y a peut-être plus une écoute des radios locales, comme Radio Tambou, par exemple.
C'est quoi cette zone industrielle dans laquelle on se trouve, là?
C'est la Jaille. Alors, ça fait partie d'une zone industrielle qui est la plus grosse zone industrielle de l'Europe politique, en fait. C'est un truc politique. Parce que, bon, on n'est pas en Europe géographique. Si c'est l'Amérique. Donc, je fais la distinction. Mais politiquement, c'est l'Europe.
Et
c'est
la plus grande zone industrielle.
La plus grande zone industrielle. La plus étendue, qui est un truc, une énorme verrue au milieu, juste entre les deux ailes du papillon.
À quoi ça sert? Pour 450 000 habitants?
Ah oui, mais bon, tu sais qu'on est dans ce qu'on appelle un marché captif par rapport à la métropole. Hein. Il y a une économie artificielle qui est complètement gonflée par tout un tas de mesures qui font que l'argent arrive de métropole, en particulier l'argent public. Et puis cet argent-là, étant donné qu'il n'y a pas de développement en particulier, moins en moins, c'est une logique voulue et politique. Par contre, il y a une consommation qui se fait, et cet argent public m'a fini par enrichir les entreprises essentiellement françaises qui restent dominantes sur le marché grâce à un certain nombre de taxes.
C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui arrive sur cette île,
ouais,
et qui va dans les tirelires des distributeurs en passant par ce tube digestif que sont les habitants de cette île qui sont des consommateurs.
Voilà, c'est exactement ce qui se passe. On devient tous des consommateurs. Ça nous spolie un petit peu d'une vision collective. Et ce que provoque le LKP, en fait, c'est redonner, et ce qui entraîne certainement cette adhésion que tu as pu constater, qui est énorme, c'est cette vision collective. On retrouve une vision collective que le consumérisme nous avait ôté un petit peu. Donc ça c'est vraiment le grand acquis, à mon sens, du LKP au jour d'aujourd'hui. On retrouve une vision collective, une vision globale où on essaye de résoudre les problèmes de cette société-là et de passer et de changer ce modèle-là pour se réapproprier notre destin, quoi. Tout simplement.
Alors là, on a depuis une semaine qu'on est ici, on n'a jamais vu autant d'hexagonaux réunis, quoi. Ça nous change des marches du LKP, quoi.
Il n'y a pas que des hexagonaux, hein, faut être honnête, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'à peu près 70%. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a, avec Stéphane qui est là à côté de moi, on a lancé une opération il y a quelques temps déjà, dans le cadre déjà des AMG, pour un petit peu que cette population, dont on sait qu'autour de nous, il y a des gens qui appuient, qui comprennent, qui sont pour le LKP, mais qu'on ne voit pas sur le terrain parce qu'ils ont peut-être justement certaines appréhensions ou il y a peut-être certains malentendus. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui courent. Donc les rassurer, leur dire que nous, déjà, on est depuis le début sur le terrain, aucune attitude raciste par rapport à nous. Au contraire, les gens sont contents de nous voir. Et ce qu'on a voulu créer, c'est un petit peu un électrochoc pour que, de plus en plus d'hexagonaux viennent sur le terrain, afin d'éviter aussi, déjà pour renforcer le mouvement, bien sûr, et puis aussi afin d'éviter tout amalgame, parce que on veut pas que cette lecture raciale, on la refuse. C'est vrai qu'il y a une énorme majorité de blancs au poste de décision. Donc, comme moi, personnellement, je combats ça, comme toutes les discriminations que j'ai pu combattre en France, c'est de la même façon. Mais il faudrait pas que les gens pensent que tous les blancs soutiennent le grand patronat. C'est absolument pas le cas. Il y a eu plusieurs choses qu'il a fallu expliquer, hein, notamment la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est à nous. Il y a eu toute une lecture ethnique de ce c'est en nous. En fait, c'est à nous, en français. Donc, en réalité, quand on discute vraiment avec les gens, on se rend compte que nous, par rapport à vous, c'est pas à eux, hein, la Guadeloupe c'est pas Taïo. Eux, c'est les exploiteurs. Ouais. C'est les gens qui exploitent, hein, ça a déjà été dit.
Le malaise des hexagonaux, ça s'appelle. Le malaise des hexagonaux.
Bonjour, je crois qu'on a insisté beaucoup sur le mot métropole. Et nous le disons à peu près aussi instinctivement que nous respirons. Eh bien oui, c'est parce que ça se vient d'une métropole.
Il y a énormément de mouvements qui réunissent, comme c'est le cas ici, aussi bien les Antillais noirs que des amoureux de la Guadeloupe, peut-être pas nés en Guadeloupe, et beaucoup de ce qu'on appelle les métropolitains. Chose qui ne se voit finalement que très rarement sur cette île. Hein. Il y a des endroits, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'île, où il y a ce qu'on appelle des poches de métro, de poches de noirs, de poches d'indiens, de poches de syro-lébanais, etc., etc.
Alors on voit que c'est un grand moment de remue-ménage. Madame veut dire quelque chose, après on passe la parole à Besancenot.
Moi je voudrais dire quelque chose de très court, c'est qu'aujourd'hui, depuis 5 semaines, je suis guadeloupéenne, je suis très fière d'être guadeloupéenne. Parce que la Guadeloupe montre l'exemple au monde entier. c'est pas une lutte pour 200 euros. Les 200 euros, c'est normal qu'on les demande. Je suis éducatrice, je travaille avec des gens déshérités.
Ils en ont vraiment besoin. Il y a même pas mis trois familles qui tiennent les voitures ici, dans toute la Guadeloupe.
Attendez, vous précisez.
Il y a trois familles qui distribuent les voitures ici en Guadeloupe.
Allez-y, madame.
Oui, moi, je voudrais revenir sur le monsieur qui a parlé des routes à l'instant.
Il y a énormément de mouvements qui réunissent, comme c'est le cas ici, aussi bien les Antilles noirs.
Et précisez-moi les choses. Il y a trois familles.
Je ne vois pas dans les blancs. Je vous dis la vérité.
Chose qui ne se voit finalement que très rarement, soit.
Et puis, évidemment, la lutte contre la profitation. Ça, vous avez inventé un mot absolument génial, qui est ce mot de profitation qu'il faut vraiment prendre dans sa sonorité, c'est-à-dire pas d'exploitation sans profit, pas de profit sans exploitation. C'est le plus vieux principe du monde, celui du capitalisme, contre lequel, avec acharnement et détermination, nous luttons.
Je crois que en Guadeloupe, il y a 450 000 habitants.
Élie Domota.
Chaque semaine, si nous faisons une manifestation, c'est plus de 100 000 personnes qui descendent dans les rues.
22 février 2009.
Ça équivaut à 15 millions de personnes dans un même lieu en France. Et 15 millions de personnes dans un même lieu en France, je crois qu'on les écoute.
La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est pas à eux. C'est le mot d'ordre, c'est les phrases qui resteront, évidemment, de ces jours historiques que vit la Guadeloupe. Alors, évidemment, c'est ambigu quand on dit la Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est pas à eux. De quel eux s'agit-il? Évidemment, il s'agit des riches, il s'agit des patrons, il s'agit des méchants béquets, il s'agit de la profitation. Mais beaucoup d'hexagonaux, de métros, de blancs ont pris ça pour eux, ce qui n'est pas toujours faux, évidemment, on peut pas angéliser trop la situation quand même, d'où le besoin d'explications. Reprenons un peu le fil de l'histoire, essayons de replacer ce moment historique dans une perspective historique. Au Palais de la Mutualité, qui est le centre et l'épicentre de toute la vie de ce pays, et même bien au-delà, puisque des quantités de journalistes se précipitent pour raconter ce qui se passe ici, on rencontre Jean-Pierre Sainton, historien.
Jean-Pierre Sainton, historien. Université Antilles-Guyane, à Pointe-à-Pitre, Martinique.
Donc vous êtes impliqué dans le mouvement, vous êtes dans le coup?
Je suis effectivement partisan du mouvement et j'ai marché pendant toutes ces dernières semaines avec la LKP. Ce mouvement est un mouvement très important. Ce mouvement-là va marquer véritablement un très grand tournant dans à la fois la mobilisation et la conscience des Guadeloupéens. C'est la première fois qu'on avait vu un mouvement d'une telle ampleur, d'une telle ferveur. Et puis avec cette volonté de mettre à plat l'ensemble des problèmes de Guadeloupéens et de les régler.
C'est ça. Mais alors ce qu'on voit, carrément sur des t-shirts, on voit toute une série de dates. On voit 1802, on voit 1967, on voit... Il y a toute une suite. On voit que les gens qui se mobilisent actuellement, les manifestants, essayent de s'inscrire dans une conscience historique. Et ça, c'est votre boulot de nous dire quel est ce fil historique.
Alors il y a un paradoxe, effectivement, c'est que vous avez toute une histoire guadeloupéenne qui commence à peine à être enseigné au niveau secondaire, qui est enseigné depuis un peu plus longtemps dans le supérieur, mais qui n'a pas pénétré, si vous voulez, l'éducation déjà. Mais il y a par ailleurs une forte conscience de dates brûlantes de notre histoire, et ces dates brûlantes, ce sont 1802. Et 1802, c'est le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe par les troupes de Napoléon Bonaparte. Donc c'est un phénomène qui se produit en même temps quasiment que l'échec de l'expédition de Napoléon à Saint-Domingue, qui va amener l'indépendance d'Haïti. Et ce rétablissement de l'esclavage a été un traumatisme dans l'histoire de la société guadeloupéenne. Rétablissement de l'esclavage, 10 000 morts dans des luttes contre les troupes de Richepanse, qui était le général envoyé par Bonaparte. Je signale d'ailleurs que Richepanse, général d'Empire, se trouve dans la galerie des généraux d'Empire à Versailles, le portrait de Richepanse de façon officielle. Il se trouve également sous l'Arc de Triomphe. Donc celui qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe est un héros national français.
Ce qui n'est pas le cas de Toussaint Louverture, par exemple.
Ce qui n'est pas le cas de Toussaint Louverture, forcément, alors que Toussaint Louverture, et si vous ne le savez pas, je vous le précise, c'est lui qui pratiquement fait rajouter dans tout le mouvement républicain de cette époque et qui touche aussi bien la rive française que les rives outre-Atlantique, qui fait rajouter l'idée de fraternité à la devise initiale liberté, égalité. Donc en Guadeloupe, ça, ce 1802, c'est un traumatisme très profond qui a cassé la dynamique de la société guadeloupéenne et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de la Guadeloupe. En 1848, on retrouve le souvenir de, au moment de l'abolition de l'esclavage, on retrouve le souvenir de 1802. Au tournant du siècle, 19e, 20e siècle, lorsque Légitimus et le mouvement noir se hissent à la première place politique en Guadeloupe et réalisent quasiment une sorte de révolution des petits en Guadeloupe, une révolution pacifique, une révolution qui était une révolution politique, une révolution électorale. C'est également la mémoire de Toussaint Louverture et la mémoire de Delgrès, celui qui s'était fait sauter plutôt que de retomber dans l'esclavage en 1802, qui le consacre. Et ça a été également l'un des points d'amorce du mouvement nationaliste guadeloupéen et du mouvement syndical. La date de 52...
Ça vient d'être célébré, là, c'est le 14 février. Oui, oui. Et ça n'est pas pour rien dans ce à quoi on insiste, est-ce que on est en
train
de dire,
que voilà. Si vous voulez, ce que vous... Alors 52, l'événement historique de 52, c'est une grève qui, comme beaucoup hein, de grèves d'ouvriers agricoles, de grèves de paysans, s'est soldée par un tir de... Il faut dire qu'il y a un scénario extrêmement classique, si vous voulez, en Guadeloupe et aussi en Martinique, dans la plupart des colonies françaises, ou même sous la départementalisation. Un mouvement social n'est pas entendu, n'aboutit pas, dure. Et jusqu'à ce que la gendarmerie tire en enfilade un petit peu sur tout le monde. Ça s'est passé donc en 52 au Moule, c'est ce qui s'est passé au Moule. Ça s'est passé également en Martinique en 59, ça s'est passé en 61 également en Martinique. Et en 67 en Guadeloupe, où là aussi il y avait une grève d'ouvriers du bâtiment. Il y avait aussi des tensions très fortes parce que deux mois auparavant, il y avait eu des incidents à Basse-Terre, un soulèvement à Basse-Terre suite à un acte de racisme caractérisé d'un grand propriétaire, d'un grand commerçant blanc contre un ressemelleur de chaussures noires devant sa devanture. Le peuple de Basse-Terre s'était soulevé, avait tenu la rue pendant deux jours et avait repoussé les CRS. Le préfet de l'époque avait fait arriver des pumas de France et il avait maintenu ces pumas parce qu'il était persuadé qu'il y aurait eu une émeute de caractère insurrectionnel, et si bien que dès lors que les incidents ont démarré à Pointe-à-Pitre à la faveur d'une grève d'ouvriers du bâtiment, il a fait très vite tirer sur la foule, et en plus, pendant deux jours, il a fait ratisser Pointe-à-Pitre par les pumas qui ont tiré à vue sur tout ce qui bougeait. Donc j'avais 12 ans en 67, donc toute la génération des gens qui ont aujourd'hui 50 ans se souviennent de ces événements, se souviennent précisément de ces événements. Ça, ce n'est pas une mémoire fantasmée, si vous voulez, ce n'est pas une mémoire lointaine, c'est une mémoire extrêmement immédiate. C'est-à-dire la certitude que tout mouvement social peut déboucher sur une tuerie. Et puis on le sait de toute façon parfaitement, si vous voulez. Le rétablissement de l'ordre dans les départements d'outre-mer est très particulier. La police y est très faible, mais la gendarmerie mobile est le facteur principal du rétablissement de l'ordre. Bon, la gendarmerie mobile, c'est l'armée. Et les sections particulières de la gendarmerie mobile, elles servent non pas à repousser ou à disperser pacifiquement une foule de manifestants, mais elles servent bien à tirer.
Quatre escadrons de gendarmes mobiles vont rejoindre ce soir la Guadeloupe.
Michel Alliomari.
Pour renforcer les moyens disponibles sur le territoire.
18 février 2009.
Criez à moi, en criez à l'assassin, en criez bourreau, les jeunes déclarent la guerre à la Guadeloupe.
Thank you.
Je crois que 67 ne peut pas se reproduire à l'identique. Les scénarios classiques dont je vous ai parlé ne peuvent pas se reproduire à l'identique.
Il y a un facteur. On a beaucoup d'auditeurs qui sont des métros et qui nous envoient des messages en disant « Oui, nous on soutient, c'est vrai, c'est inégal, c'est plus possible, la cherté de la vie, etc. etc. » Mais alors il y a un facteur là-dedans, un facteur racial, un facteur raciste à notre égard, peut-être pas raciste ou racial, le mot est un peu fort, mais en tout cas de rejet vis-à-vis des Blancs. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Écoutez,
je ne dis pas que c'est majoritaire d'ailleurs ça.
Non mais j'ai entendu ça aussi. Il faut décrypter ça à plusieurs niveaux. Il faut bien
comprendre que
la structure sociale de la Guadeloupe, de la Martinique n'est pas la même qu'en France. La structure sociale est une structure, bon, majoritairement, je n'aime pas employer le terme homme de couleur, qui est un terme de toute façon très connoté, et qui est un terme précisément du vocabulaire blanc. Quand je dis du vocabulaire blanc, je comprends bien que, si vous voulez, la notion de blanc et de noir, elle est née, c'est une notion coloniale par définition. Je suis historien, l'Occident médiéval ne se définissait pas comme blanc, il se définissait comme chrétien, il se définissait comme François ou comme Anglois, mais il ne se définissait pas comme blanc, ok? Nous sommes d'accord? Donc par conséquent, cette notion, elle est strictement coloniale, elle est façonnée dans le monde colonial, et particulièrement avec l'esclavage, et l'esclavage des Noirs, l'esclavage des Africains. Cette société a été bâtie sur ce modèle-là. Elle a été bâtie sur ce modèle-là et elle a été bâtie sur une structure, une hiérarchie ethno-sociale et qui s'est continuée après l'abolition de l'esclavage, qui s'est continuée jusqu'à la société contemporaine. Donc ça, c'est une première notion qui fait que de toute façon, même dans le vocabulaire créole courant, quand on vous dit par exemple « en caille-point travail à blanc là », je vais prendre le travail du blanc, c'est-à-dire que je vais faire le boulot du patron. Mais il y a une adéquation parfaite entre le patron et le blanc, entre le possédant et celui qui n'a pas. Même si, dans la réalité fine, ça peut être nuancé et démenti, en quelque part. Mais c'est ça, si vous voulez, l'imprégnation culturelle. Ça, c'est une première notion. La deuxième notion, c'est que ce n'est pas simplement une représentation, elle correspond à une réalité. Quand, par exemple, Elie Domota, qui travaille à la NPE, vous dit dans une réunion où il y a les patrons, où il y a le préfet, dit que la réalité des entreprises, c'est que tout l'encadrement est blanc, alors que nous savons qu'il y a des jeunes Guadeloupéens diplômés, capables, aux relations humaines, etc., qui demandent du travail et qui n'en obtiennent pas parce que les boîtes d'intérim recrutent directement en France avec des signes plus ou moins nets, comme quoi qu'ils voudraient un encadrement métro. Si vous voulez, c'est une réalité qui n'est pas démentie. Personne ne se lève, vous dites, mais vous mentez, c'est tout à fait faux, c'est ce que vous dites, personne ne dit mot. Donc ça correspond tout à fait à une réalité qui n'est pas simplement de l'imaginaire, qui n'est pas simplement une représentation culturelle, mais bien une réalité sociale. Donc vous avez la rencontre de plusieurs phénomènes. Une continuité sociologique de notre société, de nos sociétés, et qui vient se rejoindre une réalité sociale qui est reproduite à l'identique. Donc, la société guadeloupéenne n'est pas... Elle a été ordonnée sur un ordre racial, mais elle n'est absolument pas raciste. Si vous voulez, comment voulez-vous qu'un peuple soit raciste, au sens où on l'entend très bien? Moi, je sais ce que signifie ce terme. Le racisme est lié, de toute façon, à une domination. C'est une idéologie de domination. Je n'ai jamais entendu un noir dire « je suis pour la pureté de la race ». Je n'ai jamais entendu ça. Alors, si vous, je crois peut-être l'avoir entendu seulement dans la bouche de Farrakhan, à peu près. Mais je n'ai jamais entendu ça en Guadeloupe. Et vous ne l'entendrez jamais. Par contre, vous pouvez l'entendre chez les Béquets. Je ne fantasme pas. C'est ce que Despointes, bon, a dit ce qu'il dit habituellement, sans doute, dans son salon. Et ben, il a dit devant un micro. Donc vous n'entendrez aucun discours de pureté raciale. Vous n'entendrez aucun discours de supériorité raciale des Noirs sur les Blancs. Ça, c'est ça, le racisme. Vous pouvez entendre, si vous voulez, des défenses, des discours de défense. C'est-à-dire, il faut que l'encadrement de ce pays, que les politiques soient à l'image de la majorité sociale. C'est quand même très simple, très net, et c'est, ma foi, tout à fait normal et tout à fait naturel.
Quelquefois...
Qui paie des tortillers, quoi tout, dans ton sud d'Afrique.
fait, c'est la chanson La Guadeloupe, c'est un nous, la Guadeloupe, c'est pas Tahio. Donc en fait, ça veut dire qu'en gros, la Guadeloupe, c'est nous qui la faisons. Et c'est pas eux les profiteurs. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, en fait, à la suite de cette chanson-là, il y a eu des artistes qui se sont mis ensemble et qui ont fait ça. Et donc, en fait, ils relatent, en fait, la prise d'opposition de Mota, la position de Lionnage contre profitation, qui veut une progression, etc.
Devant l'entrée du port autonome de Pointe-à-Pitre. Et les gens attendent les résultats des négociations qui ont lieu dans le bâtiment qui est là. Et en attendant les résultats des négociations qui sont données par les haut-parleurs qui sont sur cette camionnette, les gens attendent, dansent, chantent, on les entend, tambour, etc. Guadeloupéen, Guadeloupéen, 200 euros, 200 euros. Et puis là, il y a une petite placette avec des tubes de néon vert, rose, et il y a quelques tables. Et c'est un Indien qui tient ça, un Indien ou un Tamoul, on ne sait pas exactement, c'est le restaurant Chalimar. Et au coin de la table là-bas, tous les soirs, à la même heure, il y a un couple de retraités qui dînent avec une régularité extraordinaire, qui sont en fait deux touristes hollandais, un monsieur et une dame, qui sont impeccables, qui sont comme s'ils étaient chez eux devant leur télévision, comme s'ils étaient dans un restaurant touristique où que ce soit sur cette planète, qui sont tout à fait souriants, tranquilles et béats, et qui sont en fait, ils ont raconté qu'ils font un grand périple, une grande croisière à bord de paquebots cargo. Il y a beaucoup de cargos dans lesquels il y a des cabines. Et leur itinéraire prévoyait qu'ils restent ici pendant 5 semaines à la Guadeloupe. Alors ils passent leurs 5 semaines ici, dans ces manifestations, éventuellement dans ces nuits de feu et d'agression et de bagarre. Ils sont là très tranquillement, ils descendent de leur chambre à heure fixe. Ils dînent là tout à fait tranquillement. Je suis sûr à peu près tous les soirs de la même chose. Les couverts bien alignés, très souriants. Et ils sont très contents de leurs vacances, ils nous l'ont dit. Et ils remontent ensuite dans leur chambre après avoir fait un petit tour le long de la mer. Et ils rentrent tout à fait ravis dans leur chambre, impassibles, tranquilles, comme si de rien n'était. Je suis sûr qu'ils ne savent absolument pas ce qui se passe là, mais ils prennent ça bien, ça fait partie des 5 semaines de leur voyage à la Guadeloupe.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao. Merci à Jean-Pierre Sainton, merci à Frédéric Gircourt. Merci également à David et Marco, ainsi qu'à leurs enfants. Et merci évidemment à tous les amis guadeloupéens en lutte. Et puis, nous vous recommandons le blog de notre ami Fred, www.chiencreole.blogspot.com. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Aveline Carmois. Réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Mouterde. Assistante Charlotte Perry, répondeur Agnès Lebotte. Et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
C'est donc le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Jégo, qui est chargé du dossier Guadeloupe. Qui est Yves Jégo? Tout de suite, son portrait réalisé en urgence par la rédaction des Guignols.
Yves, on a un problème à Mayotte.
Ok, Jégo.
Yves, on a un problème en Guadeloupe.
Ok, Jégo.
Yves Jégo, dès qu'il y a une île et qu'il fait beau, il y go.